courses dans 15 pays d'Afrique, Suno Assurance vous souhaite une belle année 2018 pleine d'assurance et vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Quel monde voulons-nous pour demain? C'est cette question existentielle qui donne son titre aux états généraux de la bioéthique lancés jeudi dernier en France. Une interrogation au centre de 6 mois de débat pour en fin d'année aboutir à la révision de l'actuelle loi de bioéthique en vigueur depuis 2011. Un cadre d'échange et de propositions que pilote le Comité consultatif national d'éthique qui implique citoyens, associations, groupes religieux et un comité représentatif, comité citoyen, spécialement constitué pour ces états généraux. Voilà pour le cadre. Et maintenant les thèmes, il est question de procréation, PMA, procréation médicalement assistée, gestation pour autrui, fin de vie, sujets de société, d'autres liés aux évolutions scientifiques, la recherche reproductive, la génétique, le don d'organes, les données de santé, l'intelligence artificielle, les neurosciences, le rapport santé-environnement. Vaste débat, interrogation de fond sur les limites éthiques de la compétence et de l'innovation technique. Car au-delà de cette question initiale, quel monde voulons-nous pour demain ? La société s'interroge sur les compétences qu'elle s'interdit de mettre en application au nom du respect de valeurs partagées. Vaste débat, on le dit, 6 mois pour préparer cette adaptation de la loi aux récentes évolutions dans le domaine de la santé. Pour en parler avec nous, Emmanuel Hirsch, bonjour.
Bonjour Caroline Perret.
Vous êtes professeur d'éthique médicale à l'Université Paris Sud Paris-Saclay. Ces états généraux, exercice de démocratie sanitaire, c'est l'ambition que s'est fixé le président du Comité consultatif national d'éthique, le professeur Jean-François Delfraissy. Il se trouve actuellement au Cambodge. Nous serons en ligne avec lui en deuxième partie de Priorité Santé. Et avant cela, nous irons en Belgique où nous retrouverons le docteur Corinne Van Oost, médecin à l'unité de soins palliatifs à la clinique du Bois de la Pierre à Wavre. Le docteur Van Oost, qui est membre de la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie. En fin d'émission, nous retrouverons la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète. Et puis, bien sûr, notre numéro 1 pour poser toutes vos questions, pour témoigner aussi, c'est le 33 84 22 75 75. La bioéthique, elle s'invite régulièrement à la une de l'actualité à travers des faits divers, souvent des tragédies familiales qui ont pour cadre l'hôpital, des cliniques, confrontations qui aboutissent parfois même devant des tribunaux, des juridictions comme le Conseil d'État, avec à la clé de grands débats. Emmanuel Hirsch, ce qui se joue lors de ces états généraux, qui ont donc commencé il y a quelques jours, ça dépasse largement ce cadre où ces prises de position parfois passionnées, c'est une très grande concertation pour aborder des thèmes très variés.
Votre introduction, je me permets de vous le dire, est remarquable, parce que vous avez montré vraiment les enjeux à la fois politiques, philosophiques, si on veut, démocratiques, avec le respect des gens dans leurs convictions, dans leur culture. Et le président de la République, Emmanuel Macron, a souhaité des états généraux, c'est-à-dire qu'on ait une concertation nationale avant que le Parlement ne se saisisse de la révision des lois de bioéthique. Alors c'est la troisième session de révision, puisque depuis un certain nombre d'années, on revoit ces lois, ce qui est assez atypique, puisque finalement une loi devrait marquer des règles intangibles. Là on considère que la science évolue, tout le monde en est témoin, en matière de génétique par exemple, en matière de procréation médicalement assistée, mais également que de nouvelles technologies rendent possible des choses qui étaient inimaginables autrefois, l'intelligence artificielle, avec des prouesses, c'est-à-dire pour des personnes, par exemple, atteintes d'un handicap ou de maladies incurables jusqu'à présent, des possibilités même d'intervenir sur le génome, mais également des conséquences, par exemple, sur les générations futures, en termes aussi de coûts, de financement de tous ces progrès, donc de justice. Donc c'est un débat démocratique, un débat politique. Vous avez parlé de démocratie sanitaire, moi je dis de démocratie bioéthique. Sachant que la bioéthique d'hier, celle qui a commencé, disons, dans les années 80, vous savez, avec la naissance d'Amandine, le premier bébé, entre guillemets, éprouvette, et qui a fait qu'en France, on a créé un comité consultatif national d'éthique, donc 1983, eh bien, les choses ont évolué, elles ont évolué d'une manière massive, mais aussi la société a évolué. des choses qu'on n'acceptait pas hier. Vous voyez, un des grands débats aujourd'hui, c'est l'assistance médicale à la procréation pour des femmes qui vivent ensemble. Donc, on a une loi favorable il y a quelques années au mariage pour tous. La société évolue, la famille évolue. Est-ce qu'une femme qui vit, en dehors d'un couple, a le droit ou pas à une procréation médicalement assistée? Et pour terminer sur cette présentation, au tout début de la bioéthique, on considérait que l'indication de l'assistance médicale à la procréation était uniquement un couple formé et atteint de stérilité. Et donc il y avait un encadrement très spécifique. Mais on voit, et c'est important d'en parler sur RFIC, dans d'autres pays, on n'a pas les mêmes conceptions de la bioéthique. Vous allez en Grande-Bretagne, vous allez en Espagne, les choses qui sont interdites en France sont autorisées. C'est ce qu'on appelle un peu le tourisme bioéthique. Tout ça pour dire que c'est pas parce que c'est bien en France ou mal ailleurs qu'il faut juger. Chaque situation est une situation de responsabilité. Et c'est important, on a un président de la République qui a des valeurs fortes, qui est finalement un philosophe, puisqu'il le dit lui-même qu'il a voulu ouvrir cette réflexion d'un point de vue philosophique. Donc dans une société pluraliste, où il faut prendre en compte la sensibilité de chacun, mais aussi les vulnérabilités de chacun, qu'en est-il du vivre ensemble au regard des progrès de la science? Quelle société voulons-nous demain? Quelles valeurs sont à promouvoir pour éviter, non pas le pire, parce que les avancées biomédicales, technologiques sont là pour servir aussi nos valeurs, mais pour éviter finalement qu'on se retrouve dans une société qui ne se reconnaît plus dans la conception qu'on a de l'humain. Donc c'est une forme de débat essentiel, un débat démocratique comme il y a eu en 2012 à la demande de François Hollande, un débat sur la fin de vie.
Alors justement, la fin de vie finalement a été réintégrée à ce débat, mais on va parler de ce qui est proprement scientifique, même si à chaque fois on est directement dans l'humain, dans la science, dans la conviction, pour certains dans la tradition. Quand on parle intelligence artificielle, pour que les auditeurs comprennent bien, quelle est la dimension bioéthique de cette intelligence artificielle?
La question de la bioéthique aujourd'hui, c'est les nouveaux territoires de la bioéthique. Autrefois, c'était autour strictement du vivant et autour de questions innovantes en matière de biomédecine. On parlait de greffe d'organes, d'intervention éventuellement sur le génome, donc tout ce qui était autour de la génétique, autour aussi de questions finalement comme les neurosciences, qu'on a vu apparaître dans la dernière révision de la loi de bioéthique qui est de juillet 2011. Mais vous voyez à quel point aujourd'hui les technologies nous confrontent à des situations totalement inattendues et d'une certaine manière assez impensables. Aujourd'hui, on a des techniques pour couper dans le génome, faire des recombinaisons qui permettent d'éviter certaines maladies, mais avec des conséquences encore incertaines sur les générations futures. Donc comment être en responsabilité dans l'accompagnement de ces évolutions? Donc quand vous parlez de progrès, vous voyez l'aspect positif, mais regardez la question des données personnelles en matière de santé. Aujourd'hui, les grands, les GAFAM, qui se réunissent à Paris, en partie, puisque vous savez que le président de la République rencontre les grandes sociétés du monde qui transforment aussi notre monde, et pas uniquement d'un point de vue financier. Aujourd'hui, cette gestion de données est quelque chose de très intéressant. Lorsque vous êtes atteint d'un cancer, on va pouvoir vous permettre de bénéficier de technologies, d'approches personnalisées. Précisément parce qu'on aura une multitude de données qui permettront de savoir quel est le meilleur traitement pour vous, pour, entre guillemets, votre cancer. Donc, on est dans des approches inédites.
Ça veut dire qu'on fait rentrer le cas X, Y dans une machine et la machine oriente.
C'est-à-dire, il y a un brassage de données, toutes sortes de données qui sont finalement traitées, et au niveau de ces données, on trouve une intelligence dans l'approche thérapeutique. Mais en contrepartie, des données personnelles, des données de santé, est-ce qu'à un moment donné, elles vont pas être détenues par un assureur qui dira, puisque vous risquez de développer tel et tel type de maladie, on le voit à travers un certain nombre de data, eh bien, on vous assurera pas ou votre coût d'assurance sera plus important. On est dans un domaine, si vous voulez, où quelque chose de nouveau, d'inédit apparaît. Et il faut l'accompagner d'un point de vue démocratique. C'est-à-dire qu'à la fois chacun puisse bénéficier de ces évolutions quand elles sont favorables notamment à sa santé, mais puisse aussi réfléchir au nom de ce qu'il est, de sa culture. Vous voyez, une bioéthique à la française, c'est très curieux parce que peu de pays finalement ont des lois de bioéthique. D'autres pays ont d'autres approches en responsabilité. Aujourd'hui, on est dans un contexte international. Ce qui se passe, par exemple, en Chine, dans les pays asiatiques, au niveau de la recherche, où ils sont extraordinairement performants, ne relève pas peut-être des mêmes valeurs, des mêmes règles. Comment on fait dans un contexte de compétition internationale où des chercheurs vous disent, si vous mettez trop de lois, on ne pourra plus avancer, par exemple, et ça a été le débat dans la dernière révision, la recherche sur l'embryon.
Avec toutes les questions génétiques, Emmanuel Hirsch, sur la forme, hein, pour expliquer comment ça se passe. Il va y avoir des propositions, des motions sur Internet, des auditions scientifiques d'associations. C'est organisé à Paris, mais aussi en province. Vous pouvez nous décrire un petit peu tout ça, ce fonctionnement ?
D'abord, on a la chance d'avoir un président du comité consultatif national d'éthique, Jean-François Delfraissy, que j'imagine les auditeurs des RFI connaissent
bien.
C'est un homme très engagé, un grand médecin, qui a dirigé l'Agence nationale de recherche sur le sida avec une vision très internationale, et notamment de la question des vulnérabilités. C'est lui le chef d'orchestre. C'est-à-dire, le président de la République a confié au comité consultatif national d'éthique le projet d'élaborer, en quelque sorte, ce débat. Donc la première partie, c'est ces 6 premiers mois qui commencent en janvier et qui vont s'achever vers fin mai, début juin. En France, nous avons en région des espaces de réflexion éthique. Donc ce sont des lieux de proximité qui vont animer des débats, qui vont créer un certain nombre d'opportunités pour que le public, mais tout le monde, puisse s'exprimer. Donc moi, je dirige l'espace éthique de la région Île-de-France, et à cet égard, on a une cinquantaine de débats qui vont être organisés, tant dans des lycées, dans des mairies, mais également à Sciences Po. Bref, on va créer du débat, et on a comme objectif de faire remonter un certain nombre de questionnements, ou d'affirmations, ou de prises de position au comité consultatif national d'éthique. Chaque espace éthique régional va remonter, comme ça, va faire remonter un certain nombre d'idées. En quelque sorte, c'est une consultation sur le terrain. Le comité consultatif national d'éthique va rendre un rapport. Il va prendre l'été, il va rendre d'abord sa propre réflexion. Hein. Si les auditeurs des RFI vont sur le site du comité consultatif national d'éthique, ils seront passionnés pour voir qu'il y a, je crois, 123 avis sur différents sujets qui touchent à la bioéthique aussi. Et donc, le CCNE a légitimité à rendre un rapport. Ensuite, il va le transmettre à un office parlementaire qui s'occupe des choix de santé et technologie, scientifiques et technologiques, qui lui-même va intégrer toutes ces données. Et vers novembre, le Parlement, donc on rentre dans la partie plus politique, plus, j'allais dire, débat à finalité de loi, le Parlement va se saisir de cette question et on annonce pour à peu près février-mars un projet ou une proposition de loi qui sera la nouvelle loi de bioéthique. Mais avec cette originalité, que beaucoup de sujets qui n'ont jamais été abordés dans le domaine de la bioéthique, je prends un exemple, le non-vivant, l'animal, est-ce qu'il sera ou pas dans le domaine de la bioéthique ? On a eu la COP21 sur nos responsabilités vis-à-vis de la planète. L'enjeu, c'est nos responsabilités vis-à-vis de l'humain. En quoi nous serons en capacité d'accompagner, de réguler, si c'est possible, un certain nombre d'évolutions, sans remettre en cause ce qu'est notre conception démocratique de l'humain. Vous savez, on parle beaucoup de transhumanisme. Voilà une question qui est importante.
Avec toutes ces mentalités aussi qui évoluent, hein, au gré des progrès technologiques, on en a parlé, au gré aussi de la fréquence de ces expériences, questions liées à des étapes fondamentales de l'existence. C'est vrai que quand on dit bioéthique, on pense fin de vie, naissance, procréation, débat relancé aussi, hein, sur l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux femmes célibataires. On en parlait, aux couples de femmes, position défendue d'ailleurs par le président de la République Emmanuel Macron. Alors avant de vous retrouver, Emmanuel Hirsch, tout de suite ce témoignage. Élodie, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 34 ans. Il y a 3 mois, vous avez donné naissance à un petit garçon, un bébé né grâce à vous, votre compagnon, et une procréation médicalement assistée. Alors pourquoi est-ce que vous avez eu recours à la PMA ?
J'ai eu recours à la PMA parce que on m'a diagnostiqué en fait une ménopause précoce à l'âge de mes 29 ans. J'ai tout simplement arrêté de prendre la pilule pour avoir un bébé et je me suis rendu compte après plusieurs mois que voilà, que le diagnostic malheureusement de la ménopause était tombé et qu'il n'était pas possible pour moi d'avoir des enfants de manière naturelle.
Ensuite, votre parcours, est-ce que tout de suite vous avez décidé justement de vous faire aider par la médecine pour avoir ce bébé?
J'ai envie de vous dire oui et non, parce qu'il faut quand même digérer la pilule, si je peux dire ça comme ça. Dans le milieu médical, on ne prend pas forcément de gants pour vous annoncer que vous ne pourrez jamais avoir d'enfant et que vous êtes entre guillemets un cas exceptionnel qui est rarement vu, du moins à 29 ans. Donc une fois que j'ai digéré ça, ce qui m'a fallu quand même quelques mois, on est vite rentré dans le process. Mais il faut quand même le temps de pouvoir accepter le fait qu'il va falloir se faire aider pour avoir une famille.
Il n'y a pas eu quand même des questions que vous vous êtes posées sur la suite des événements qui auraient pu vous faire renoncer? Par exemple, est-ce que je vais oser en parler autour de moi? Est-ce que j'arriverai à dire que finalement, ce bébé, il est de moi, mais d'une certaine façon, il n'est pas complètement de moi?
Alors c'est vrai que c'est délicat d'en parler à ses proches et aux gens qui nous sont chers. Et si vous voulez, ça a été assez facile d'en parler parce que j'ai été très très bien entourée de par ma famille et de par mes amis. Et finalement, la question de cet enfant n'a pas mes gènes ne s'est finalement que très très peu posée.
Est-ce que depuis cette naissance, vous vous intéressez au débat lié à ce genre de sujet? Est-ce que vous êtes plus curieuse à ce sujet?
Alors bien sûr, je me suis intéressée à ce genre de débat-là. Je suis allée sur des forums, je me suis renseignée pour savoir un petit peu ce qui se passait aussi à l'étranger, parce qu'il faut quand même dire et savoir que le process est très très long en France, qu'il y a très peu de communication qui est faite sur ce sujet-là, malheureusement. Et du coup, évidemment, on s'intéresse, on se renseigne, on est curieuse sur ce sujet-là, qui, bien sûr, si ça ne m'était pas arrivé, ne m'aurait absolument pas intéressée. Je pense qu'il serait intéressant de sensibiliser un petit peu plus les femmes, un peu plus que les hommes sur ce point-là, car c'est un sujet qui touche de plus en plus de monde, malheureusement. Et si on n'est pas bien entouré, si on n'a pas quelqu'un qui connaît quelqu'un ou qui a déjà vécu cette situation-là, malheureusement, on trouve très très peu d'informations. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens extraordinaires, une sage-femme de l'hôpital de Cochin qui m'a très très bien épaulée, qui m'a très bien aiguillée, mais c'est compliqué d'avoir des informations. Je pense que la plupart des gens en France, du moins, ne sont pas au courant de ce process, parce qu'il y a malheureusement très très peu de donneuses. Il faut savoir qu'en Espagne, par exemple, c'est quelque chose qui est rémunéré, donc forcément ça attire un peu plus de monde. En France, bon, c'est loin d'être rémunéré, mais on en parle très très peu.
D'où des listes d'attente spectaculaires, hein, plusieurs années pour pouvoir bénéficier d'un don d'ovocytes.
Plusieurs années, nous, ça a été rapide parce que ça n'a mis que 4 ans. Alors que 4 ans, ça peut paraître être très très long et c'est effectivement le parcours du combattant quand vous êtes dans le process parce que c'est très éprouvant sur le plan physique et sur le plan moral. Mais il faut savoir que ça peut aller jusqu'à 8-10 ans. On a eu la chance d'avoir une marraine, donc une marraine qui est une donneuse. C'est une personne en fait qui vous est proche, qui donne de ses ovocytes pour une autre femme. Et vous, du coup, ça vous fait grimper dans la liste d'attente. Alors, c'est malheureux, mais vous pouvez grappiller quelques places comme ça qui vous font gagner des années.
Est-ce que vous avez déjà été confronté à quelqu'un d'hostile à votre projet?
Non, ça ne m'est pas arrivé, non.
Est-ce que vous êtes interrogé sur la façon dont vous allez en parler à votre enfant?
Alors oui, et depuis le tout début en fait, c'est quelque chose qui me tracassait un petit peu. Maintenant que Charlie, mon petit garçon, est là, ça me travaille beaucoup moins. Mais oui, parce que je me suis souvent posé la question, si un jour il me rejette, il me dit de toute façon, tu n'es pas ma mère, même si c'est moi qui l'ai porté pendant 9 mois et qui l'ai mis au monde, ça reste purement génétique. Je me suis posé ces questions-là au début, et depuis qu'il est là, elles sont quasiment inexistantes parce que c'est mon fils et ça restera mon fils, même si sur un plan génétique, ce ne sont pas mes gènes à 100% bien sûr. Et quand si demain il aime le piano, ça sera grâce à moi. S'il aime dessiner, ça sera grâce à moi. Et l'éducation, ce n'est pas les gènes qui le font et l'amour qu'on lui porte encore moins.
Et quand il vous posera la question, maman, comment on fait les bébés?
J'y ai pas encore réfléchi, il a que 3 mois, alors j'ai encore un petit peu le temps.
Pour affûter vos arguments.
on va lui expliquer de la façon la plus simple qui soit. Je pense qu'on va rester sur quelque chose de très imagé. On expliquera que maman avait un petit problème au niveau de son ventre et qu'il a fallu qu'on prenne les petites graines d'une autre maman pour pouvoir lui donner naissance.
Ça s'est quand même terminé par une belle rencontre.
Exactement.
Merci beaucoup Élodie et très bonne journée.
Merci beaucoup à vous, au revoir.
Élodie, maman d'un petit garçon de 6 mois, hein, grâce à la science, évolution sociale qui parfois se heurte aux traditions. Emmanuel Hirsch, on va vous retrouver dans 3 minutes tout à l'heure. On parlera notamment de cette question de la gratuité, hein, des dons en France en général, dons d'organes, dons d'ovocytes. don de sang aussi. C'est inscrit en France comme ça depuis toujours. Certaines personnes d'ailleurs sont pour que ça change. On verra que c'est aussi une question en débat. Ça fait partie de la bioéthique, un débat forcément.
L'anonymat aussi, vous avez remarqué, puisqu'elle pose la question de l'accès aux sources, éventuellement, c'est-à-dire aux origines pour l'enfant.
C'est une question qui revient aussi régulièrement dans l'actualité. On va se retrouver juste après l'information. 3 minutes pour décliner l'actualité, tout de suite dans 30 secondes.
Priorité santé, Caroline Paré.
Seconde partie de priorité santé que nous consacrons aux états généraux de la bioéthique qui ont été lancés jeudi dernier en France. 6 mois de débat. On continue d'en parler avec vous, Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique médicale à l'université Paris-Sud, Paris-Saclay. Des contributions, des débats en fin d'année, objectifs révisés. L'actuelle loi en vigueur depuis 2011, Emmanuel Hirsch, on l'a vu, cette révision s'impose en fonction des évolutions scientifiques, des évolutions de société. Et on a entendu tout à l'heure, avec le témoignage d'Élodie, maman d'un bébé issu d'un don d'ovocytes, que la bioéthique, ce ne sont pas des savants qui discutent entre eux, des politiques qui font des lois, mais c'est bien la vie de chacun, de chacune d'entre nous. On touche au concret, on touche au quotidien, on touche tout simplement à la vie.
Vous avez vu, Caroline Paré, la maturité d'Élodie, la réflexion de fond. C'est pas uniquement de la consommation, j'allais dire, technique. C'est aussi une interrogation quasiment métaphysique sur l'enfant qu'elle peut aujourd'hui avoir le plaisir d'accompagner dans un projet de vie. Donc ça, c'est le premier point à prendre en compte. Deuxième point, s'il n'y avait pas eu la possibilité de vitrifier les ovocytes, cette technique n'aurait pas été possible. Alors elle évoque, à juste titre, Élodie, le fait que dans certains pays, on incite les femmes en leur donnant une rémunération. Et c'est vrai que la notion de don est quelque chose de très important au niveau de la bioéthique. Vous avez l'anonymat et puis vous avez le don. Le don d'ailleurs d'ovocytes, de gamètes ou de spermatozoïdes, c'est pas du don de sang. On transmet autre chose à travers. C'est un élément à prendre en considération. C'est pas aussi, j'allais dire, à banaliser que ça. Mais ce que je remarque, c'est que il y a une demande sociétale de plus en plus forte. C'est-à-dire qu'au départ, c'était très encadré d'un point de vue médical. Vous dévoilez une indication précise. La science a fait que l'indication s'est ouverte, effectivement, à d'autres possibilités, notamment la possibilité d'utiliser des ovocytes dans de bonnes conditions. Mais la vraie question, c'est quand on n'est pas en couple, par exemple, et qu'on sollicite la demande, qu'on sollicite l'aide médicale, l'assistance médicale, à des fins, j'allais dire, personnelles. Prenez l'exemple du don d'ovocytes qui est intéressant. Dans la réflexion actuelle, on se dit, si une femme donne ses ovocytes, en contrepartie, on conservera ses ovocytes pour plus tard, si elle souhaite avoir une famille, des enfants. Notamment, vous avez des femmes qui ont un projet professionnel, et qui disent, c'est vers 35 ans, par exemple, que j'aimerais avoir un enfant, voire plus tard. Donc, vous avez des règles extrêmement précises en France, notamment une limite d'âge, je crois que c'est 43 ans. Après 3 ans, 43 ans. Mais si vous avez effectivement conservé vos ovocytes que vous avez donnés à des tiers, est-ce qu'en contrepartie, vous n'avez pas bénéficié de cette possibilité d'accéder à une technique dans un contexte qui est un contexte que la loi n'avait pas prévu a priori? Je dis d'une manière assez simple, en fin de compte. La loi évolue, notre société évolue, et il faut arriver à trouver dans la loi de bioéthique l'arbitrage, l'équilibre le meilleur. Mais également, et un dernier point, ça a été évoqué dans ce superbe reportage, le droit à l'enfant de savoir finalement quel est le donneur. C'est une question à ne pas négliger. Il y a quelques jours, on a appris que à travers Internet, on pouvait très bien accéder à ses origines. Qu'est-ce que le législateur va faire de cette évolution? C'est un fait accompli. Donc, est-ce qu'on pourra dissimuler, finalement, à des personnes qui le souhaitent, leurs origines? Sachez que dans certains pays, en Angleterre, dans certains pays nordiques, on peut accéder, finalement, à ses origines, à travers, finalement, un certain nombre de procédures, et que ça ne remet pas en cause du tout le don de spermatozoïdes et d'ovocytes.
Alors, vous pointez justement les différences nationales. De l'autre côté de la frontière française, en Belgique, les choses sont différentes, en particulier pour ce qui est de la fin de vie. En ligne avec nous, docteur Corinne Van Hoos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin à l'unité de soins palliatifs à la clinique du Bois de la Pierre à Wavre. J'espère que je l'ai bien dit. Docteur Van Hoos, vous êtes membre de la commission fédérale de contrôle d'évaluation de l'euthanasie. En Belgique, l'euthanasie est dépénalisée depuis 2002. En France, c'est interdit. Justement, quel regard portez-vous sur ces différences nationales?
Je constate que un certain nombre de Français viennent demander l'euthanasie en Belgique parce qu'ils aimeraient bénéficier de la loi belge, c'est-à-dire d'un accompagnement et d'un acte qui leur permet de mourir dans les conditions qu'ils ont choisies. et non pas avec la loi française qui ne leur permet de mourir que dans le sommeil.
Docteur Van Hoost, cette décision qui concerne la fin de vie, cet acte d'euthanasie, il est décidé après une très longue relation entre le patient, l'équipe médicale. C'est un processus très encadré. J'insiste sur ce fait parce que souvent, quand il y a des débats sur les questions de bioéthique, on schématise, on a l'impression que les gens, en fait, prennent une décision. Surtout les détracteurs de ce genre de décision vont souvent dans la caricature, alors que vous précisez bien, tout ça n'est pas décidé, c'est peut-être bizarre ce que je veux dire, mais sur un coup de tête.
Non, bien sûr, c'est pas une décision que les gens prennent à la légère. Tous les gens veulent vivre le plus longtemps possible dans de bonnes conditions. Donc quand ils voient que les conditions physiques se détériorent à cause de la maladie, ils réfléchissent à leur condition de fin de vie. Et ils y réfléchissent avec leurs proches, leurs médecins, leurs infirmières, les psychologues, toute l'équipe qui les entoure dans le cadre de leur maladie. Et dans cette réflexion, effectivement, parfois, ils évoquent le fait qu'ils voudraient mourir par euthanasie, c'est-à-dire en fixant à un moment donné des limites à leur existence.
Alors, quel regard...
ça nous permet à nous les médecins, d'entendre leur évolution, puisque la demande d'euthanasie doit être une demande répétée et réfléchie. On a ce temps. En tout cas, les médecins traitants, que ce soit les généralistes, puisque plus de 50% des euthanasies se produisent à domicile, ou les médecins traitants hospitaliers, les cancérologues, les neurologues, ils cheminent avec les personnes sur la façon dont elles veulent terminer leur vie.
Comment justement sont prises les décisions en matière de bioéthique en Belgique? On l'a dit tout à l'heure, l'euthanasie dépénalisée. Est-ce que c'est un cadre global ou est-ce que ce sont des points qui sont traités les uns après les autres?
Je pense que ce sont des points traités les uns après les autres. Je ne suis pas législateur, mais ce qui s'est passé au niveau de la Belgique, c'est un peu comparable à ce qui se passe en ce moment en France. C'est-à-dire qu'il y a eu une réflexion au niveau de la société, au niveau du Parlement, qui a invité des experts, mais aussi des membres de la société. Et à un moment, la majorité en place au niveau du Parlement prend une décision de changement de loi en lien avec le comité d'éthique national.
Je me permets juste une observation. Bonjour d'abord, je vous ai écouté toujours avec plaisir. Je vous ai lu avec plaisir parce que pas que les auditeurs des RFI aient le sentiment que vous êtes absolument pour l'euthanasie. L'intelligence de la démarche en Belgique, c'est soins palliatifs qui peut être accessible. Oui. Et d'ailleurs, les Belges sont mieux situés que nous au niveau de l'offre en termes de soins palliatifs.
C'est souvent pointé justement dans de nombreux secteurs, la Belgique qui est à l'avant-garde sur les grands sujets de société.
En tous les cas, c'est un modèle intéressant et qu'on n'a pas à critiquer a priori. Non, ce que je voulais faire observer, c'est que la loi sur la fin de vie, notre dernière loi, c'est du 2 février 2016, n'était pas jusqu'à présent assimilée aux lois de bioéthique. C'était une loi spécifique et qui a évolué donc sur la sédation profonde et continue. Et ça a été évoqué il y a un instant par Corinne Van Hoost, notamment sur la sédation profonde et continue, c'est-à-dire on endort la personne à sa demande. D'ailleurs, qu'elle soit en fin de vie ou qu'elle soit atteinte d'une maladie qui, à un moment donné, est un sujet inacceptable pour la personne. Le vrai débat, c'est que la sédation profonde et continue est à ce point proche de l'euthanasie qu'il faut aller jusqu'à mettre dans la loi l'euthanasie, c'est une question possible, en tous les cas qui peut être posée. Ce qu'on peut dire, c'est que le Comité consultatif national d'éthique a mis à l'ordre du jour des révisions de loi de bioéthique la question de la fin de vie, alors que la ministre de la Santé préférait qu'on attende un peu de temps, c'est-à-dire qu'on évalue la loi qui est quand même récente pour voir si on a besoin d'aller plus loin.
Donc la question a été réintégrée. Docteur Corinne Van Hoost, dernière question. Quel regard justement vous portez sur la France, peut-être sur certains freins? Est-ce que vous estimez que sur certains sujets, il y a blocage?
Je pense que au niveau de la société, des citoyens, il y a ce désir de l'euthanasie, de pouvoir accéder dans des situations très très difficiles à cette possibilité-là. Et j'ai la sensation que c'est plus le corps médical qui bloque. Alors, c'est vrai que c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de soins palliatifs. C'est vrai que chez nous, effectivement, les équipes de soins palliatifs interviennent beaucoup dans ces situations de fin de vie. Pas toujours, mais quand même beaucoup. Et il faut pouvoir proposer les soins palliatifs à ces patients en demande d'euthanasie, même s'ils ne sont pas complètement en fin de vie. Il faut au moins pouvoir, qu'on puisse les écouter la souffrance des patients, qu'elle soit physique ou psychique.
Il faut que le cadre.
La société belge est effectivement un tout petit peu plus. Les médecins, je vais dire ça en façon caricaturale, en disant que les médecins en Belgique ont moins de pouvoir que les médecins en France. Sur ces lois.
La vraie question aussi qu'on peut se poser, c'est l'évolutivité des indications en Belgique, par exemple, de l'euthanasie qui était extrêmement limitée à des situations particulières. Et donc, quand on légifère sur ce domaine, le risque aussi, c'est de banaliser un acte. Ça a l'air de rien, mais c'est une question importante. Est-ce que le législateur a se prononcé sur des situations singulières, toujours spécifiques, et sur l'exceptionnel? Et donc, moi, je pense qu'il y aurait plus de maturité d'abord à ce qu'on développe un accès universel aux soins palliatifs avant qu'on reprenne cette question. Et est-ce que, finalement, une bonne diffusion des soins palliatifs, d'une culture des soins palliatifs, y compris à domicile, ne justifierait encore une évolution de la loi qui est quand même une loi déjà très avancée, si on veut.
Merci beaucoup. Merci, docteur Corinne Van Hoo. Je rappelle que vous êtes médecin à l'unité de soins palliatifs de la clinique du Bois de la Pierre à Wavre. États généraux, on l'a dit depuis le début de cette émission, lancée par le Comité consultatif national d'éthique. Cette organisation que vous présidez depuis un an exactement, professeur Jean-François Delfrécy, bonjour.
Oui, bonjour.
Enchanté de vous retrouver en ligne du Cambodge, précisément de Phnom Penh, professeur Delfrécy. Objectif des états généraux qui ont été lancés jeudi, on l'a compris, de ne pas laisser les seuls experts débattre de toutes ces questions fondamentales.
Oui, l'objet, là, pendant les 5 mois qui viennent, durant ces états généraux, qui, une fois de plus, précèdent la loi, c'est deux étapes successives, même si, bien sûr, l'une peut apporter à l'autre, et c'est avoir une... finalement une réflexion un peu commune, un exercice de démocratie sanitaire ou d'intelligence collective. C'est pas facile. C'est probablement un exercice qui a lieu en France tous les 7 à 8 ans, qui est un peu atypique. Il y a d'autres pays qui ont ces états généraux. L'Inde, par exemple, a une démarche en ce moment, dans ce très grand pays qui est assez proche de nous, mais la majorité des pays ne passent pas par une loi, et on peut d'ailleurs s'interroger, faut-il une loi. L'avantage de la loi, c'est qu'elle permet de retrouver à un temps donné à la fois l'évolution du citoyen et l'évolution sociétale, les progrès de la science, et puis le politique.
Justement, si on reste avec ce regard sur ce qui se passe en dehors de nos frontières, j'aimerais, professeur Jean-François Delfrécy, qu'on s'arrête particulièrement sur le continent africain. Quelle est la réflexion engagée au Sud et justement par quelles instances est-ce que cela passe?
Alors, il y a... En tout cas, je connais mieux, disons, ce qui se passe dans la grande région d'Afrique de l'Ouest et... évidemment, dans ces pays où la langue est partagée et le français. Ce qui n'est pas anodin, puisque les mots en éthique, la construction des phrases en éthique est un élément essentiel. Et bien sûr, le partage d'une même langue facilite les choses. Si on regarde ce qui s'est monté au cours des 15 dernières années dans un certain nombre de pays de la grande région d'Afrique de l'Ouest, il y a un certain nombre de comités d'éthique qui se sont montés d'abord dans un premier temps essentiellement pour assurer, je dirais, une série de questions et de réponses vis-à-vis de protocoles de recherche. On l'a bien vu, par exemple, en Guinée à l'occasion d'Ebola. On l'a vu dans un certain nombre d'autres pays à l'occasion des essais qui étaient menés sur le VIH ou maintenant sur les hépatites ou sur le paludisme. Quand on mène un essai thérapeutique ou des questions autour de la thérapeutique dans ces pays, il faut qu'il y ait une validation, un peu comme en France, avec un comité d'éthique qui tient compte et qui est là pour respecter et pour porter la voix des patients qui vont rentrer dans cet essai. Et puis ces comités d'éthique sont en train d'évoluer, c'est-à-dire qu'ils commencent à se poser des questions qui dépassent l'essai thérapeutique ou la recherche elle-même, et qui pose des questions plus larges, finalement, de l'implication de ce qu'est l'éthique dans le domaine du biomédical. Alors c'est variable. On est au début d'une nouvelle aventure hein, pour ces pays, mais je crois que c'est important et qu'il faut les aider progressivement et eh bien à s'emparer de ces questions. Il existe d'ailleurs l'équivalent d'un sommet mondial de l'éthique qui a lieu tous les deux ans, qui va avoir lieu cette année à Dakar fin mars, et sur lequel le Comité national d'éthique va réunir eh bien tous nos amis, nos collègues de langue française pour partager ensemble un certain nombre de valeurs et de discussions et de à la fois d'idées communes ou d'idées communes, mais en tout cas de dialogue. Une fois de plus, la langue, la francophonie, là, est un élément très important.
C'est important aussi parce que c'est les auditeurs qui nous écoutent, hein. Professeur Jean-François Delfraissy, Emmanuel Hirsch qui est avec nous en studio, voulait réagir à vos propos.
D'abord pour saluer le travail de Jean-François Delfraissy et le remercier de ce qu'il fait pour nous permettre d'avoir vraiment une éthique, une bioéthique démocratique, de dire qu'un des enjeux par rapport au pays qu'il évoque, c'est les formations en éthique, et on a des partenariats, vous avez maintenant dans les universités en Afrique, quasiment des chaires de bioéthique. Donc de quelle manière, et ça sera peut-être aussi un enjeu dans la révision de nos lois de bioéthique, parler de la formation, de la sensibilisation, de l'accompagnement. Puis un autre point qui me semble important, et on en avait discuté avec Jean-François Delfraissy, la prise en compte aussi de la dimension culturelle de toutes ces questions, quand vous touchez à la vie, à la mort, à l'augmentation du vivant, il faut respecter les gens dans leur culture. Il ne faut pas parler d'universalité de la bioéthique sans prendre en compte aussi les singularités dans l'accompagnement. Puis le dernier point qui me semble aussi important, et ça a été aussi évoqué à plusieurs reprises par Jean-François Delfraissy, c'est la question de la justice, notamment dans l'accès à toutes ces formes d'évolution et de progrès.
Le procès du développement.
Mais également les nouvelles technologies. Donc je ne vois pas au nom de quoi, effectivement, on se refuserait à cette réflexion et implémenter la question des pays émergents, des pays qui sont avec d'autres cultures dans notre réflexion même française sur la bioéthique. On est la patrie des droits de l'homme, on doit intégrer cette dimension d'universalité dans notre réflexion.
Professeur Jean-François Delfraissy, justement, les disparités économiques, est-ce qu'elles ne risquent pas d'accroître tous ces fossés, y compris dans ce domaine de la bioéthique ?
Oui et non. C'est-à-dire que le domaine de l'innovation peut accentuer les fossés. Bon, un bon exemple, par exemple, c'est les progrès extraordinaires qui existent en ce moment dans le domaine du traitement du cancer, avec l'immunothérapie, avec des traitements qui sont à des coûts très très importants. Et là, c'est une vraie falaise qui existe avec ce qui se passe dans les pays du Sud. Et il y a donc clairement une sorte de problème éthique par rapport à l'accès aux soins entre le Nord et le Sud. Et puis, vous voyez, je vous appelle là du Cambodge, où je vois sur le traitement, par exemple, des hépatites, où il y a, alors qu'il y avait une très grosse différence dans le traitement d'hépatite C entre le Nord et certains pays du Sud, eh bien, les traitements sont en train, les hépatites sont en train de chuter de façon très, très vertigineuse. Et c'est-à-dire que l'innovation thérapeutique et les nouvelles formes de construction qui peuvent se faire font que l'accès au traitement va être beaucoup plus rapide. Ça, c'est un premier élément de réponse, je dirais, pour l'accès à l'innovation. Et un second, et moi qui m'intéresse beaucoup, c'est tout ce questionnement qu'on a au Nord sur ce qu'on appelle les bases de données, le big data, et qui est par exemple quelque chose de révolution complète dans le biomédical, sur la place du patient par rapport à ces grandes bases de données, par rapport aux médecins. Et bon, ce qui est frappant, vous le savez, c'est que en Afrique, Le téléphone portable a sauté l'étape du téléphone fixe, et ils sont très très avancés dans tout ce qui est la constitution de ces bases informatiques. Et là, il y a une vraie question de gouvernance installée, et qui ne doit pas être installée par le Nord pour le Sud, et qui doit être installée directement, en les aidant, par nos collègues du Sud, qui doivent avoir une vraie réflexion partagée, soit au niveau de leur pays, soit au niveau de leur région, et qui doivent, sur ce sujet-là, avoir une vraie visibilité et une vraie construction de l'éthique pour leurs concitoyens.
Merci beaucoup, professeur Jean-François Delfraissy, président du Comité consultatif national d'éthique. Merci d'avoir été en ligne avec nous du Cambodge. Ce sera notre conclusion. Il nous reste environ 2 minutes pour échanger. On l'a dit, débat français dans un espace européen, espace sans frontières. Est-ce qu'il n'y a pas, au bout du compte, une forme d'hypocrisie, Emmanuel Hirsch, dans la mesure où celles et ceux, on va encore parler des disparités justement, celles et ceux qui ont les moyens de financer certains actes interdits en France au nom de la bioéthique, eh bien pourront le faire et peuvent déjà le faire à l'étranger.
La question de la régulation internationale a été posée par Jean-François Delfraissy. C'est une responsabilité politique et c'est aux États, j'allais dire, de faire valoir un certain nombre de valeurs, celles de la démocratie. Et que la France développe cette réflexion qui est un peu atypique, parce qu'effectivement tout le monde dans le monde n'a pas eu à cœur d'avoir une loi de bioéthique. De la même manière que François Mitterrand avait créé le premier comité consultatif national d'éthique en 1983. Alors en quoi devons-nous renoncer à être à la tête d'une réflexion, d'un engagement qui rappelle au monde entier qu'on a des valeurs d'humanité, des valeurs à partager. Jean-François Delfraissy a aussi évoqué cette dimension d'universalité. Je pense que c'est une responsabilité pour chacun d'entre nous. Donc il faut qu'on vive ces quelques mois avec le débat le plus riche possible. Vos éditeurs d'RFI peuvent aussi participer, puisqu'il y aura un site dédié à la réflexion sur la bioéthique. C'est à eux aussi de participer à cette réflexion, de se l'approprier. Il y va, me semble-t-il, d'enjeux fondamentaux. Quelle vie voulons-nous vivre, j'allais dire demain, c'est pas uniquement la question de la planète en termes d'écologie, mais en termes d'humain. Quelle responsabilité nous voulons partager? Et dernier point, quelle intelligence nous sommes prêts encore à assumer au regard de l'intelligence artificielle, une intelligence humaine? Et je suis certain que vos éditeurs RFI comprennent mieux peut-être que d'autres les valeurs qui sont à défendre.
Alors, le site internet que vous citiez, hein, piloté justement par le comité d'éthique, vous retrouverez le lien de ce site sur www.rfi.fr. Il sera ouvert à compter du mois prochain et jusqu'en mai, et bien donc, des débats, des discussions, programme très dense. On en reparlera bien sûr dans Priorité Santé. Merci beaucoup Emmanuel Hirsch d'avoir été avec nous, professeur d'éthique médicale à l'Université Paris-Sud, Paris-Saclay. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Comme chaque lundi, notre page nutrition dans Priorité Santé, c'est avec vous Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète. Aujourd'hui on parle des vitamines, de l'importance de ces vitamines pour notre santé. Et d'abord, quel est le rôle de ces vitamines pour le corps, pour l'organisme?
Alors les vitamines sont des substances organiques qui sont peu ou pas synthétisées par notre organisme, d'où leur rôle central et donc qui sont très importantes pour notre santé car elles jouent des rôles dans différents processus. Elles participent par exemple à un grand nombre de réactions métaboliques qui vont nous permettre de synthétiser de l'énergie à partir de tout ce qu'on va manger. Elle participe aussi au mécanisme de défense de notre organisme à travers à la fois un rôle d'antioxydant contre toutes les substances qui vont agresser nos cellules, mais aussi au sein de notre système immunitaire de manière plus large.
Alors, quelles sont les différentes familles de vitamines importantes pour l'organisme?
Alors aujourd'hui, généralement, parce qu'il y a toujours des sous-classifications, on classifie 13 principales vitamines qui sont classées en deux grandes classes. Les vitamines hydrosolubles, qui sont donc solubles dans l'eau, et les vitamines liposolubles qui sont solubles dans les lipides, donc dans les graisses. Pour les vitamines hydrosolubles, on en a 9 aujourd'hui. Donc on a d'abord les vitamines de la classe B1, B2, B3, B6 et l'acide pantothénique, qui est jamais très facile à prononcer, qui vont principalement participer au métabolisme donc des glucides, des lipides, des protéines et de certains acides aminés. Donc là, vraiment, le rôle métabolique. On a la biotine et le folate qui vont participer à la synthèse des acides nucléiques comme l'ADN, donc là, extrêmement central pour notre organisme. Et enfin, la vitamine C, qui va jouer un rôle d'antioxydant, qui va aussi, ce qu'on oublie souvent, favoriser l'absorption du fer, mais aussi participer à la synthèse du collagène des os, de la peau ou encore des dents. Donc là encore, un rôle central d'appui à notre organisme pour sa structure. Il y a ensuite les 4 vitamines liposolubles, donc solubles dans les graisses, qui sont la vitamine A, qui joue un rôle important pour notre vue, la vitamine D, qui joue un rôle important dans l'absorption du calcium, la vitamine E, qui joue un rôle d'antioxydant, et enfin la vitamine K, qu'on oublie très souvent, qui joue un rôle dans la coagulation du sang.
Alors, comment assurer un bon apport en vitamines?
Alors, il faut d'abord rappeler qu'à part la vitamine D qui peut être synthétisée en petite quantité dans l'organisme, elles doivent être apportées par notre alimentation parce que pour les autres, l'organisme ne les synthétise pas. Il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les vitamines aussi dans le même repas. Ce qu'il faut, c'est aller vraiment sur la journée alimentaire et essayer de toutes les apporter, d'où l'importance d'une alimentation diversifiée. Il faut aussi savoir qu'on retrouve les différentes vitamines du groupe B, de la vitamine A, la biotine, dans les céréales complètes, les poissons, les viandes dont les abats, les œufs, les fruits et les légumes. Ensuite, on retrouve la vitamine C et le folate dans les fruits et les légumes. La vitamine K dans les légumes est vert foncé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un légume vert foncé? Ça veut dire les épinards, les choux, les laitues ou les brocolis. La vitamine D dans le lait, les poissons gras, l'œuf et certains champignons. Et enfin, la vitamine E dans les huiles végétales, les graines comme les amandes, les noix qui sont très à la mode aujourd'hui et certains légumes. Il faut bien savoir aussi que l'apport en vitamine d'un aliment est aussi dépendant de sa transformation. Ce qu'on oublie très très souvent quand on parle de vitamines, on parle souvent d'aliments bruts. Mais par exemple, une céréale qui va être blanchie et raffinée, donc le riz blanc qu'on obtient à la fin, a perdu une énorme partie de ses vitamines qui étaient dans le péricarpe autour du grain. C'est la même chose avec les vitamines, c'est pour ça que c'est important de savoir si elles sont hydrosolubles ou liposolubles, parce que par exemple, toutes les vitamines hydrosolubles, quand on va les faire cuire, quand on va faire cuire l'aliment, elles vont passer dans l'eau, une grande partie. Si on n'utilise pas l'eau de cuisson, on va avoir un aliment transformé qui aura perdu une grande partie de ces vitamines. Et donc, j'allais dire presque, donc l'avantage des vitamines liposolubles, c'est justement qu'elles vont être en capacité de se fixer dans les graisses et d'être conservées, donc d'avoir plus de conservation dans l'organisme et de réserve. Après, le côté négatif de ça, surtout pour les gens qui prennent des supplémentations, c'est que du coup, comme elles se mettent en réserve, elles peuvent de temps en temps être en réserve excédentaire et on peut avoir des toxicités. Donc, il faut toujours faire attention là aussi aux supplémentations.
Alors là, c'est le trop-plein, mais qu'est-ce qu'il y a comme risque en cas de carence en vitamines ?
Alors, je vais pas toutes les citer parce qu'il y en a une grande quantité. Je vais citer les trois plus célèbres, on va dire. Donc, la carence d'abord en vitamine 1, qui est appelée, la maladie s'appelle le beriberi.
B1.
La B1, oui, pardon, excusez-moi, qui va provoquer une atrophie des muscles, des troubles cardiaques et à terme des troubles mentaux. La deuxième très connue, c'est la carence en vitamine C, qui va être appelée le scorbut, et donc qui peut conduire au rachitisme de l'enfance. C'est pour ça qu'on surveille beaucoup ça, pour la croissance, les courbes de croissance. Et enfin, la dernière, c'est la carence en vitamine A, qui peut conduire à la cécité. Et ça, pour tous les gens qui nous écoutent en Afrique, ils savent que c'est un gros, gros problème, puisqu'il y a des grandes campagnes pour supplémenter en vitamine A, parce que c'est vraiment une cause de cécité très très importante, cette carence en vitamine A.
Merci beaucoup Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète. Notre émission touche à sa fin. Merci à l'équipe de Priorité Santé qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est tout Samaké, Ophélie Lassène, Didier Bleu. Demain, nous revenons sur l'affaire Lactalis, lait infantile contaminé à la salmonelle. Vos témoignages 33 84 22 75 75. À demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance qui vous souhaite une bonne et heureuse année pleine d'assurance. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.